Vous écoutez, on lit pour vous.
Qu'est-ce qu'on célèbre au fait ? Un texte de Rosémée Autonne-Témorin, paru le 6 octobre 2025 dans la presse. Je me demande à quoi ça rime tout ça. Bien sûr, j'ai lu sur les origines de l'action de grâce. Des traditions autochtones à la première célébration officielle, en passant par les rituels des colons européens, ça fait un bail qu'on fête les récoltes sur le territoire. Je comprends bien, mais je me demande quand même, de nos jours, qu'est-ce qu'on souligne ? Les récoltes, vraiment ? La présence de nos proches ? Une longue fin de semaine et, si on est chanceux, un congé payé ? En fait, on célèbre sans le savoir nos racines et une certaine américanisation, ai-je appris. Priscilla Plamondon, la Lancette, vient tout juste de publier Steak, blé d'Inde, patate, la savoureuse histoire de la gastronomie québécoise, édition de l'Homme. Elle s'y connaît en évolution des traditions. La journaliste et historienne explique que dès le 19e siècle, familles, voisins et amis se réunissaient pour les corvées d'automne. Comme on est un peuple qui aime joindre l'utile à l'agréable, on faisait les corvées, mais on faisait aussi le party. La récolte, c'est vraiment un moment rassembleur dans notre histoire. Il faut dire qu'il y avait de quoi se réjouir. L'automne était synonyme d'abondance. Ça donnait lieu à des festins, illustre l'autrice. Rien à voir avec les jours maigres d'hiver où on grattait les fins de caveau. On l'oublie, en tout cas moi je l'oublie, mais il n'y a pas si longtemps, le rapport à l'arrivée de la saison froide était tout autre. La survie dépendait des bonnes récoltes, rappelle Priscilla Plamondon la Lancette. Nos arrière-grand-mères ont vu leur vie rythmée par cet impératif. Il fallait élever les poulets et les porcs l'été, puis les abattre à l'automne, en même temps qu'on faisait les récoltes et les conserves pour se préparer à l'hiver. C'était un fardeau pour elles, un facteur de division entre hommes et femmes, précise l'historienne de la gastronomie québécoise. Les temps ont bien changé. Aujourd'hui, les familles vont aux pommes avec joie, bien que je connaisse des parents qui n'en peuvent plus des vergers. Puis les amis se réunissent pour faire des conserves par choix, un sourire au visage et un verre à la main. Faut savoir d'où on vient et se rappeler qu'on n'a rien inventé, croit Priscilla Pamondo la Lancette. Après avoir perdu certaines traditions liées au terroir avec l'industrialisation, les Québécois tentent à se réapproprier les produits locaux depuis les années 1990. Et le fait-on suffisamment pour prétendre que ce sont les récoltes qu'on honore lors de l'action de grâce ? Élisabeth Cardin en doute sérieusement. « Je pense que c'est d'abord un prétexte pour être ensemble et se dire qu'on est là l'un pour l'autre. On a besoin de fêtes, même si on ne comprend plus la célébration de base. » Par contre, l'autrice des essais « Le temps des récoltes, cultiver le terroir, atelier 10 » et « La mémoire des matériaux » chez le MEAC reste fidèle à la tradition. Pour elle, il s'agit d'une occasion de célébrer les maraîchers de famille qui travaillent à contre-courant. C'est vrai qu'ils bûchent dur et que l'on comprend souvent mal l'ampleur de leur labeur. Élisabeth Cardin pense à cette maraîchère qui lui a demandé un coup de main. Elle voulait que l'autrice écrive un texte pour expliquer aux gens que des légumes à vendre, il n'y en a pas tellement en juillet. On a l'impression que nos aliments arrivent par miracle dès l'été installé. Or, ils doivent pousser. Les supermarchés nous ont coupés du cycle des saisons et du travail requis pour combler notre assiette, croit Élisabeth Cardin. Il y a 10 ans, en ouvrant le restaurant Manitoba à Montréal, Élisabeth a fait le choix de revenir à la base, mais pas mal plus qu'en allant aux pommes. « J'ai fait un switch mental », se souvient-elle. « Chaque aliment en son temps. » L'autrice et artisane a appris à manger ce qui est disponible au fil des saisons. Depuis, chez elle, viande, poisson, produits laitiers, fruits, légumes, farine et grains sont locaux. Elle a récemment acheté de l'huile d'olive pour la première fois en une décennie. « Je célèbre les récoltes à mesure que les produits arrivent », explique-t-elle. « Je regarde les infolettres de mes maraîchers et je mange ce qui est sorti au jardin. C'est une célébration perpétuelle. » Et nul besoin d'être si strict pour se nourrir en fonction des saisons. Élisabeth Cardin souligne que même les produits importés ont une saison. On pourrait célébrer les récoltes étrangères en les achetant au bon moment. D'ailleurs, notre rapport de l'action de grâce est lui-même teinté par l'étranger. Si on a commencé à la célébrer de la sorte, c'est notamment parce que Thanksgiving s'est imposé dans le cinéma et la publicité américaine. Dans notre culture culinaire, l'américanisation est importante, explique Priscilla Pamondon la Lancette. Avant le XXe siècle, on ne mangeait pas de dinde, mais plutôt de l'oie blanche. La dinde a pris tellement de place dans la publicité qu'on a fini par remplacer l'oie sur nos tables dans les années 1940. Si on avait une tradition à restaurer, ce serait celle de mettre de l'oie au menu, suggère l'historienne de la gastronomie québécoise. Je rappelle que pour ça, il faudrait que chaque clan ait un chasseur ou une chasseuse, parce que de loi, ça ne s'achète pas au supermarché. Chez Elisabeth Cardin, le festin de l'Action de grâce sera pour sa part constitué d'huîtres, de légumes tout juste récoltés et de pâtes fraîches aux courges cette année. En parlant avec ces deux femmes, je pense que je trouve enfin le sens de mon action de grâce. Cette fête sera dorénavant une occasion de réfléchir à mon rapport aux maraîchers d'ici, ceux que je connais trop peu et à qui on doit tant depuis si longtemps. Et je ne manquerai évidemment pas de lever mon verre à la mémoire de nos arrière-grand-mères. C'était « Qu'est-ce qu'on célèbre au fait ?» un texte de Rose-Aimée Autonne-Témorin, paru le 6 octobre 2025 dans la presse.
La STM en conflit et le REM en fête, symbole d'une fracture montréalaise. Un texte de Patrick Laplante, paru le 20 novembre 2025 dans Le Devoir. Alors que Mark Carney et François Legault ont inauguré dans l'Allégresse le nouvel embranchement du réseau express métropolitain, REM, vers Deux-Montagnes, c'est un tout autre paysage qui s'esquisse loin des caméras et des discours. Derrière cette infrastructure flamboyante, évaluée à 9,4 milliards de dollars, le réseau montréalais de transport collectif, la STM, se débat avec ses propres démons. Sous-financement chronique, crise sociale, épuisement d'un modèle qui craque sous la pression. Ce contraste frappe. D'un côté, le REM incarne la vitrine politique idéale, des kilomètres de rails neufs, des stations haute technologie, une automatisation vantée comme remède à tous les maux urbains. Le gouvernement fédéral injecte massivement, la Banque de l'infrastructure du Canada consent un prêt colossal et l'on vante la réduction des gaz à effet de serre comme argument d'avenir. Tout ici est pensé comme promesse, symbole d'une nouvelle modernité, audace et fierté québécoise sur grand écran. Et pourtant, Montréal vit à deux vitesses. Dans l'ombre de ces festivités, la STM s'essouffle. Prise au piège entre sa mission publique et les impératifs d'économie, la société traverse l'une des plus graves crises de son histoire. Le conflit qui oppose la direction à plus de 2000 employés d'entretien révèle un malaise profond. La grève, suspendue mais non réglée, a déjà lourdement compromis l'offre de services. Pour la direction, il faut évoluer, performer à moindre coût. La rémunération représente près de la moitié des charges. Les travailleurs, appuyés par leurs syndicats, refuse la précarisation des horaires et la baisse des conditions de travail, dénonçant une fuite en avant dictée par le manque de moyens. Le dernier budget a certes promis 560 millions sur 5 ans, mais on reste bien loin des besoins, évalués à 585 millions sur 3 ans par les experts du terrain. Le fossé est grand. Et la comparaison est éclairante. Le REM, automatisé et optimisé, mise sur la technologie et les économies d'échelle. La STM, à l'ancienne, repose sur une main-d'œuvre abondante et un service humain, certes perfectible, mais indispensable à la mobilité quotidienne. Tandis que l'un célèbre la création d'emplois permanents, l'autre jongle avec des grèves à répétition et des négociations ardues. L'un a les projecteurs, l'autre les tranchées. Qui doit payer? Le défi dépasse la simple joute budgétaire. Québec solidaire, QS, fidèle à sa posture, refuse toute intervention législative pour forcer la fin des grèves. Le parti choisit le camp des travailleurs, demande des investissements massifs et réclame un redressement profond pour éviter que le service ne se dégrade toujours plus. cette position lui vaut la critique. On l'accuse d'abandonner les usagers, de privilégier les revendications syndicales au détriment de ceux qui dépendent de la STM pour vivre, travailler, survivre en ville. Québec solidaire réplique. Défendre les conditions, c'est défendre le service à long terme. Le Parti québécois, PQ, pour sa part, multiplie les critiques contre le sous-financement et exige un rééquilibrage audacieux du plan québécois des infrastructures. Mais le PQ, aujourd'hui cantonné au rôle d'opposant, n'a de poids que celui de la parole militante, relevant le manque de vision globale d'un gouvernement trop obsédé par ses vitrines. Au bout du compte, l'inauguration du REM est un succès politique, mais elle ne doit pas faire écran à l'urgence sociale qui secoue le transport collectif à Montréal. Le défi n'est pas que technique ni salarial. Il est politique, il est moral. Sans volonté forte pour soutenir et entretenir l'existant, sans investissement soutenu dans ce qui fait la ville vivante et accessible, Montréal risque la fracture. Des infrastructures neuves et performantes pour certains, un service public déclinant pour tous les autres. L'avenir du transport collectif ne se joue pas seulement dans les extensions, mais dans les couloirs que la ville arpente chaque jour. C'était la STM en conflit et le REM en fête, symbole d'une fracture montréalaise, un texte de Patrick Laplante paru le 20 novembre 2025 dans Le Devoir.
La vache québécoise perdue dans le hachoir. Un texte de Judith Lachapelle paru le 9 novembre 2025 dans La Presse. La question est simple. Pourquoi n'y a-t-il pas de bœuf québécois à l'épicerie? Avec près de 400 000 vaches dans les fermes laitières du Québec, dont environ le quart sont envoyées à l'abattoir chaque année, ça ne devrait pas être si difficile d'en trouver. Or, la réponse est compliquée. Vraiment compliquée. Comme a pu le constater, le comédien et metteur en scène Justin Laramé, à qui l'on devait déjà « Rondelet », une pièce et un balado sur les coulisses de l'industrie laitière que le public a pu découvrir en 2022. Avec son nouveau projet, le documentaire audio « Front de bœuf », il s'intéresse cette fois à ce qui arrive aux vaches quand elles ne font plus assez de lait. Et en cours de route, le comédien a pu observer des choses révoltantes, déroutantes, floues, nauséabondes, inquiétantes, décourageantes. « Je pense que ça arrange beaucoup de gens que ce soit compliqué, » pense-t-il, « parce qu'il y a peu de gens qui ont le temps de faire le parcours que l'équipe a fait tout le long de la production du balado. » À peine nous sommes-nous installés à la table du café, les mots se mettent à débouler. Justin Laramé a vraiment beaucoup à dire sur la question. 2 ans de travail ont été nécessaires pour réaliser « Front de bœuf », dont les 6 épisodes viennent d'être déposés sur la plateforme Audio, O-H-D-I-O, de Radio-Canada. On vous avertit d'emblée. L'auditeur, à qui le monde agroalimentaire est complètement étranger, sera dérouté. Ça prend quelques notions pour comprendre le cycle de vie d'une vache laitière québécoise, de l'étable à l'assiette. Mais ça vaut la peine de persévérer dans l'écoute pour prendre la mesure du problème sur lequel Justin Laramé veut attirer notre attention. C'est ainsi que l'on comprend que, chaque année, les fermes laitières québécoises envoient environ 100 000 vaches de réforme à l'abattoir, soit des vaches qui ont terminé leur carrière laitière. C'est énorme, et pour cause. Le Québec est le plus grand producteur laitier au Canada. Malgré cette quantité impressionnante d'animaux à abattre, la majorité de ces vaches sont transportées dans des abattoirs hors de la province, en bonne partie aux États-Unis. Dans ses recherches, l'équipe a même retracé des vaches québécoises jusqu'en Colombie-Britannique. Donc, en ce moment, explique-t-il, la vache part du centre du Québec ou de Chaudière-Appalaches et va se faire abattre en Pennsylvanie. Ensuite, la viande est transformée en Alberta et elle revient dans un restaurant de Drummondville. Et en cours de transformation, la vache québécoise disparaît dans le hachoir. Sa viande est mélangée avec celle de toutes les autres qui passent par la chaîne de production ce jour-là, qu'elles viennent d'ailleurs au Canada, des États-Unis, d'Amérique du Sud ou même de Nouvelle-Zélande. Et donc, à la fin, le paquet de bœuf haché vendu en épicerie au Québec contient de la viande qui vient d'un peu partout. C'est ce cycle que dénonce Front de bœuf. Comment faire en sorte que tout ce parcours se déroule au Québec? Est-ce parce qu'il manque d'abattoirs? Pas du tout. Il y a suffisamment d'abattoirs au Québec pour recevoir toutes les vaches. Le problème, c'est que les abattoirs manquent d'approvisionnement. Il faut entendre le témoignage de la propriétaire du groupe ADEL, Adèle, à Luceville, qui raconte comment elle voit quotidiennement passer des camions pleins de vaches en route vers un abattoir situé à des centaines de kilomètres, alors que le sien est loin de rouler à plein régime. Troublant. Et pourquoi les producteurs envoient-ils leurs vaches se faire abattre si loin? Parce que les abattoirs, situés à l'extérieur du Québec, offrent un meilleur prix d'achat pour leurs bêtes. Ils ont les moyens d'écraser la concurrence puisqu'ils appartiennent essentiellement à un seul propriétaire, la multinationale américaine Cargill. Ce qui explique, comprend Justin Laramée en cours d'enquête, pourquoi les abattoirs québécois qui n'appartiennent pas à Cargill n'arrivent pas à acheter les vaches québécoises. Le cas le plus douloureux est celui de la faillite, en 2012, de l'abattoir Lévinoff-Colbex de Saint-Cyril-de-Wendover. Même si leur propre fédération, les producteurs bovins du Québec, était propriétaire de l'établissement, des producteurs ont vendu leurs bêtes à meilleur prix à des concurrents de l'Ontario ou d'ailleurs. Ajoutons à tout ça l'application de normes d'élevage et d'abattage beaucoup plus strictes au Canada qu'aux États-Unis, ou le fait que les vaches peuvent être transportées en camion pendant 36 heures sur de longues distances avant qu'on leur accorde une pause. Et on achève l'écoute de Front de bœuf avec un petit mal de cœur. On fait quoi alors? On demande du bœuf québécois à l'épicerie. S'il y a une demande pour de la viande de vache du Québec, il va y avoir de la viande de vache du Québec. Ça, c'est la base, assure Justin Laramée. Mais tout de suite, il nuance. Le consommateur a le dos large. Il faut arrêter de tout lui remettre dessus. Les grandes enseignes d'épicerie doivent aussi faire pression sur leurs fournisseurs, dit Justin Laramée. Et les gouvernements, ajoute-t-il, doivent alléger certaines normes administratives imposées aux abattoirs pour rendre ceux-ci plus concurrentiels. C'est ce que ça prend pour renforcer la fameuse souveraineté alimentaire souhaitée au Québec. D'après moi, les gens vont être contents de payer plus cher pour de la viande de vache du Québec, en sachant très bien que c'est la vache qui leur a donné leur lait, dit la ramée. Et les coûts pour la société doivent être évalués au-delà de celui du prix de la livre de bœuf haché. Tous les jours, rappelle-t-il, près d'une dizaine de camions conduisent des bovins hors du Québec avec toutes les émissions de CO2 et les impacts sur le bien-être animal que ça implique. Combien ça nous coûte, ça, collectivement? Je pense qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Qui est Justin Laramée? Né en 1980, originaire de l'Outaouais et diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 2003, Justin Laramée est acteur, auteur et metteur en scène. En 2022, il a créé et interprété la pièce de théâtre documentaire « Rondelet », d'abord au Trident, à Québec, puis en tournée à travers la province. On l'a vu au petit écran dans « L'appel », « Hubert et Fanny » et « Doute raisonnable » et au grand écran en 2023 dans « Coco ferme ». Pour le balado « Front de bœuf », pour lequel il signe la recherche, le scénario et l'animation, il a travaillé avec le réalisateur Guillaume Théier ainsi que la recherchiste et productrice Gina Desjardins. C'était « La vache québécoise perdue dans le hachoir », un texte de Judith Lachapelle paru le 9 novembre 2025 dans La Presse.
Des grossesses de plus en plus risquées en raison du réchauffement climatique, un texte de Julien Durie de l'agence France-Presse paru le 14 mai 2025 dans Le Devoir. Les fortes chaleurs, de plus en plus fréquentes à cause du réchauffement climatique, ne menacent pas que les personnes âgées. Elles augmentent aussi les risques pour les femmes enceintes et leurs bébés, un phénomène de mieux en mieux décrypté par les scientifiques. Le changement climatique accroît les risques liés à la grossesse dans le monde entier en raison de la chaleur extrême, résume mercredi le rapport d'une ONG de référence basée aux États-Unis, Climate Central, relayé en France par l'association Conséquences. Ces auteurs ont cherché à mesurer à quel point l'exposition des femmes enceintes à une chaleur excessive avait augmenté à travers le monde depuis les années 2020, et dans quelle mesure cette progression est liée au réchauffement climatique. Au final, dans la plupart des pays, 221, le changement climatique a au moins doublé le nombre moyen de jours d'extrême chaleur à risque pour la grossesse chaque année, conclut cette analyse. Et la progression est particulièrement marquée dans des régions où l'accès aux soins est limité, notamment dans les Caraïbes, ainsi que dans certaines parties d'Amérique centrale et du Sud, les îles du Pacifique, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique subsaharienne. Ce travail a ses limites. Ces auteurs n'ont pas regardé à quel point les femmes enceintes avaient réellement été plus affectées dans les pays concernés, ne se prononçant que sur l'augmentation des températures à risque. Il fournit avant tout des preuves claires de l'augmentation des risques liés à l'exposition aux chaleurs extrêmes, juge auprès de l'AFP la chercheuse Anna Bonnell de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, soulignant que ses conclusions pourraient autant s'appliquer aux personnes âgées. Mais, en se concentrant sur les femmes enceintes, ce rapport met en avant des risques relativement peu évoqués par les médias et les autorités sanitaires, par contraste avec les dangers chez les plus âgés. Or, les risques de la chaleur et, par extension, du réchauffement climatique pour la grossesse sont de mieux en mieux documentés, même si l'on se pose encore beaucoup de questions sur les mécanismes physiologiques qui les expliquent. Il y a beaucoup de travaux récents dans ce domaine, souligne Mme Bonnel, qui a notamment montré, en Gambie, les effets négatifs de la chaleur extrême sur le développement du fœtus et du nourrisson. Manque d'informations. Une étude plus large, publiée en 2024 dans la revue Nature Medicine, donne une idée générale de l'état des connaissances. Les fortes températures accroissent de multiples risques qui vont des naissances prématurées au décès du nouveau-né en passant par des malformations congénitales. L'exposition croissante à la chaleur constitue une menace majeure à la santé des mères et des nouveau-nés, préviennent les auteurs de ce travail réalisé en compilant près de 200 études. Il faut toutefois relativiser l'ampleur de cette menace au niveau individuel. Selon cette étude, une vague de chaleur multiplie par 1,25 le risque de connaître des troubles de grossesse, ce qui fait peu de différence pour une femme enceinte prise isolément. Mais sur l'ensemble de la population, un tel niveau représente des conséquences importantes en matière de santé publique. Les experts s'accordent donc largement sur la nécessité d'y répondre par différentes mesures d'adaptation, sans parler de la lutte contre le réchauffement lui-même. Certaines mesures ne bénéficieraient pas seulement aux femmes enceintes. Végétaliser les quartiers, limiter la pollution, créer des îlots de fraîcheur, énumère Lucie Adélaïde, épidémiologiste en France à l'INSERM, citée dans le rapport de conséquences. Mais elle insiste aussi sur la nécessité de mieux informer les personnes concernées afin qu'elles se protègent mieux, alors qu'en France, les femmes enceintes sont assez peu évoquées lors des campagnes annuelles de prévention contre les canicules. Certains sites publics donnent déjà des recommandations très utiles, mais elles sont encore trop peu connues, conclut Mme Adélaïde. C'était « Des grossesses de plus en plus risquées en raison du réchauffement climatique », un texte de Julien Dury de l'agence France-Presse paru le 14 mai 2025 dans Le Devoir.